J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grostette et Rémi Pascal sur Radio B.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue. Je suis Rémi, provençal d'origine. Je suis agronome et je travaille dans l'agriculture.
Et moi, c'est Thomas. Je suis ingénieur en biologie et passionné de l'étude des sols et des systèmes agricoles.
Alors avant de commencer, Thomas, j'ai une question sérieuse, une question très sérieuse.
Ouais.
C'est même une devinette. Tu verras, elle n'est pas difficile.
Je suis nul en devinette, tu sais.
Oh, mais je crois en toi, Thomas.
Ouais.
Top. J'ai été inventé il y a 12 000 ans au Proche-Orient pour la première fois.
La roue, le chapeau melon?
Non. Mon apparition a été une des plus grandes révolutions qu'a connue l'humanité.
Le parfum, le chocolat...
Non, tu vas savoir. Je me suis répandu sur toute la planète.
Le Covid.
Mais non, j'ai permis l'émergence de sociétés complexes.
Le Minitel, le smartphone, le calcul mental?
Non, grâce à moi, on mange du poulet de Bresse, du bœuf bourguignon, du morbier, de la ratatouille, du vin rouge...
Ah, je sais, l'assiette ou les couverts.
Mais non, Thomas, c'est l'agriculture. On avait répété, pourtant.
Ah, je sais, j'ai paniqué.
Bon, si comme Thomas... L'agriculture ne vous parle pas beaucoup, rassurez-vous, vous écoutez la bonne chronique. Au menu, on vous parlera de céréales, de danettes au chocolat, d'histoire, de politique, mais encore de pétrole.
On mène l'enquête pour savoir comment va-t-on manger demain avec un climat qui change et des ressources naturelles qui diminuent.
On met les pieds dans le plat en parlant des directions que notre agriculture et notre modèle alimentaire doivent prendre.
Avant de savoir où aller, il nous faut comprendre d'où vient notre agriculture, pourquoi on s'est mis un jour à faire pousser des plantes et élever des animaux.
C'est pourquoi, dans ce premier épisode, on va vous parler de l'invention de l'agriculture.
Et ça ne date pas d'hier.
Pour comprendre ce qui s'est passé il y a 12 000 ans, Thomas, il nous faut remonter les millénaires. Alors on vous propose une aventure immersive. Actionne la machine à remonter le temps et l'espace, on part en moins 10 000 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, au Proche-Orient.
Ça y est, on y est?
Ouais, on est sur l'actuel Irak, entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate. Et c'est ici qu'est apparue pour la première fois la culture de plantes et l'élevage d'animaux, il y a environ 12 000 ans. Les humains que l'on rencontre sont des chasseurs-cueilleurs.
Contrairement à nous, ils sont nomades la plupart du temps. Ils doivent donc se déplacer tout le temps, suivre le gibier, pêcher et cueillir de nombreuses plantes pour se nourrir.
Et ce mode de vie a fait ses preuves. Leur alimentation est riche et très diversifiée.
Oui, il y avait environ 3 millions de chasseurs-cueilleurs dans le monde il y a près de 12 000 ans.
D'ailleurs, depuis que les êtres humains existent sur Terre, ils ont plus vécu en tant que chasseurs-cueilleurs qu'en tant qu'agriculteurs. Bon, après tout, pourquoi cultiver des plantes et élever des animaux quand on peut les trouver dans la nature? Alors, pourquoi ont-ils inventé l'agriculture et l'élevage? Si la chasse et la cueillette marchaient si bien.
Moi, je sais. C'était un beau matin, vers 10 heures. Pierre, un chasseur-cueilleur, revient de la chasse. Il commence à dépecer le sanglier qu'il vient d'attraper. Il est pépère et tout d'un coup, il s'arrête, regarde au loin, se lève et s'écrie « On a une défense de mammouth, les gars, j'ai une idée de fou. Et si on faisait pousser des plantes et on élevait des animaux ?»
Bon, ça s'est pas passé comme ça. Ce changement de mode de vie, qu'on appelle la révolution néolithique, a pris 3000 ans environ et ne s'est pas fait de la même manière partout sur la planète. Pour résumer, la révolution néolithique, c'est le passage d'un mode de vie de chasseur-cueilleur,
où tu te nourris de ce que tu prélèves dans la nature,
à un mode de vie d'agriculteur,
où tu fais pousser et tu élèves ce que tu manges.
Alors on ne connaît pas les raisons précises qui ont incité les chasseurs-cueilleurs à devenir agriculteurs. Il y a plusieurs hypothèses, mais il y a deux principaux éléments déclencheurs.
Le premier, c'est un changement climatique. Il y a 12 000 ans, le climat s'est réchauffé. On passe d'une température moyenne sur Terre de 10 à 15 degrés. C'est énorme. Quand il faisait 10 degrés de moyenne sur Terre, la moitié de l'Europe était couverte de glace et le paysage français ressemblait à la Sibérie.
Il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui, rendez-vous compte. On retrouvait même des pingouins dans la rade de Marseille. Vous y penserez la prochaine fois en dégustant un esquimau sur le Vieux-Port cet été.
Ce réchauffement a mis plusieurs milliers d'années à se faire. Mais au bout du compte, il fait plus chaud et le climat est plus stable qu'avant. Et ça, ça a du bon pour nos chasseurs-cueilleurs qui voient de plus en plus de céréales sauvages pousser, comme l'amidonier ou l'orge par exemple. Ces plantes ont l'avantage d'être faciles à récolter, faciles à stocker et nourrissantes.
Alors, ça devait être beaucoup plus facile d'aller cueillir des céréales que de faire comme Astérix et Obélix et de courir après un sanglier. Le deuxième élément déclencheur, c'est la sédentarisation. On ne peut pas être agriculteur si on est nomade. Et oui, c'est pas facile d'être nomade.
Ah ouais, moi ça me donne envie. Vivre dehors, au grand air, être libre d'aller où on veut tout le temps.
Bah moi c'est ce que j'imaginais aussi. Mais on doit bouger tout le temps et forcer de constater qu'on est confronté à des environnements difficiles, parfois même hostiles. C'est un mode de vie qui est inconfortable. On ne peut pas avoir beaucoup de choses, car il faut tout le temps tout transporter. Si vous voulez faire de la farine par exemple, pour consommer vos céréales, eh bien, il va vous falloir une meule de pierre pour broyer les grains de céréales. Mais un nomade, il ne peut pas transporter tout le temps sa meule de pierre. C'est pas pratique, c'est lourd, c'est encombrant. L'agriculteur sédentaire, lui, facile. Il laisse la meule de pierre au même endroit. Et puis l'agriculteur sédentaire, pour protéger ses animaux et ses champs, ben, il peut les surveiller tous les jours parce qu'il est à côté. Alors il y a 13-14 000 ans, ces peuples de chasseurs-cueilleurs se sédentarisent petit à petit dans des zones qui sont riches, où ils pouvaient facilement se nourrir toute l'année.
Et la Mésopotamie était d'ailleurs une terre riche, propice à la sédentarisation. Il faisait plus humide et moins chaud qu'aujourd'hui.
Donc si je résume, le climat est plus favorable, il permet à plus de céréales de pousser, et les chasseurs-cueilleurs se sédentarisent petit à petit.
Oui, c'est ça. Les chasseurs-cueilleurs continuent de cueillir plein de plantes qu'ils ramènent chez eux pour les consommer, les stocker. D'ailleurs, ils fabriquent des poteries dont ils se servent pour stocker leur nourriture tout au long de l'année.
C'est les premières bottes de conserve de l'histoire. Et petit à petit, ils se mettent à cultiver les plantes qu'ils cueillent dans la nature. Pourquoi ? Bonne question. Et cette question n'est pas tranchée.
Peut-être que certaines graines tombent au sol et on se rend compte qu'elles peuvent pousser autour des habitations, que l'on n'est pas obligé d'aller les cueillir à plusieurs dizaines de kilomètres.
Et c'est comme ça que les débuts de la culture de plantes commencent. L'élevage d'animaux suivra. Au Proche-Orient, donc en Mésopotamie, les premières agricultrices et les premiers agriculteurs se nourrissent alors d'amandes, de pistaches, de céréales et de légumineuses sauvages. Alors légumineuses sauvages, c'est les lentilles, les fèves, les petits pois ou les pois chiches.
Ils vont de plus en plus se nourrir de leur production et de moins en moins de la cueillette. C'est ce changement de mode de vie qui fait entrer l'humanité dans une nouvelle ère, celle du néolithique.
Tout le monde, les anciens comme les jeunes, se consacrait entièrement à la recherche de nourriture, parce qu'il s'agissait de survie. Mais cela a changé avec l'invention de l'agriculture. Les hommes avaient le temps de faire autre chose, et c'est ce qui permet à une société de voir le jour.
Comme l'explique dans cet extrait Marc Masselin, qui est paléontologue à l'Université de Londres, quand on commence à faire de l'agriculture, notre quotidien change.
Tout le monde n'a plus à chercher sa nourriture tout le temps. Certains se spécialisent dans l'agriculture et l'élevage, d'autres deviennent artisans. L'organisation sociale évolue, on vit ensemble différemment.
Et on peut même dire que la politique apparaît à ce moment-là de l'histoire. Il faut organiser les récoltes, le stockage alimentaire, la répartition de la nourriture. Tout ça demande une nouvelle gestion, une nouvelle organisation. Des différences sociales apparaissent entre les individus. On l'observe bien avec l'architecture. Dans certains sites archéologiques, les maisons ne se ressemblent pas. Certains ont des maisons mieux faites que d'autres, peut-être dues à une différence sociale entre individus.
Bon, ça fait quand même beaucoup de changements. On a eu raison de devenir des agricultrices et agriculteurs ?
Ben, on peut se poser la question, car certains peuples ne sont jamais passés à l'agriculture. On peut penser par exemple aux aborigènes d'Australie ou aux pygmées d'Afrique centrale, par exemple. On suppose qu'ils n'en ont pas eu besoin. Si le milieu était assez riche pour se nourrir, pourquoi changer ?
Et puis si j'ai bien compris, pour changer, il faut déjà que les conditions soient réunies. Il faut être sédentaire, capable de stocker de la nourriture, avoir des animaux à domestiquer ou encore avoir un rapport à la nature différent.
Si ces conditions ne sont pas au rendez-vous, bah, on peut imaginer que le passage à l'agriculture ne se fait pas.
Mais ça prend plus de temps d'être chasseur-cueilleur. Tous les jours, aller cueillir sa bouffe, c'est long, non ? Il n'y a qu'à voir le temps que prend une cueillette de myrtilles, non ?
Ah oui, avant d'avoir une tarte aux myrtilles complète, ça prend du temps. Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. Les travaux d'ethnologues, comme Marshall Saline, ont montré qu'il fallait plus de temps pour faire de l'agriculture qu'être chasseur-cueilleur.
Remarque, tous les jours, tu dois surveiller ton troupeau ou tes champs, t'as peu de temps libre pour autre chose. Pas facile de prendre des vacances alors. Ils y passent plus de temps, mais ils sont plus nombreux.
Oui, c'est sûr. Avec l'agriculture, on a plus de nourriture qu'avant et on a plus d'enfants. Les femmes ont 3 à 4 fois plus d'enfants que quand elles étaient chasseuses-cueilleuses. La population augmente et passe de 2-3 millions à 170 millions d'habitants en 10 000 ans.
Par contre, plus de natalité, mais aussi plus de mortalité. Les chasseurs-cueilleurs bougeaient tout le temps et étaient peu nombreux. Les agriculteurs sédentaires ont plus d'enfants, s'entassent et bougent peu, ce qui peut favoriser le développement et des maladies qui se répandent. Sans oublier que les animaux que l'on côtoie pour l'élevage nous transmettent aussi des maladies. La syphilis ou encore la rougeole, par exemple, pourraient être des maladies transmises par les animaux.
On a également des carences en sel et en vitamines à cause d'une alimentation qui est maintenant basée sur les céréales.
Tout ça augmente la mortalité.
Alors se demander si on a eu raison de devenir agricultrice et agriculteur est peut-être un peu étrange. On n'est pas à la place des chasseurs-cueilleurs d'il y a 12 000 ans. Ce changement mode de vie n'est pas vraiment un choix, comme celui d'aller habiter en ville ou à la campagne, par exemple. C'est le résultat de longues transformations climatiques, environnementales, culturelles ou sociales.
Et notre agriculture en France, comment elle est arrivée en France au final ? Par l'avion ?
Mais bien sûr, par ère néolithique. Tu savais pas, la première compagnie aérienne de l'histoire.
Une plage achetée, un sachet de semences offertes, c'est ça ?
C'est ça. Non, l'agriculture française et européenne est issue de l'agriculture qui naît au Proche-Orient. Les peuples d'agriculteurs vont se déplacer en direction de l'Europe et diffuser avec eux leur mode de vie. Ils arriveront en Europe centrale en passant par les Balkans. Les premières traces d'agriculture en France remontent à moins 5400 avant Jésus-Christ.
Ah ouais, ça a mis quand même près de 5000 ans pour arriver chez nous.
Eh ouais, non, ça a été long. C'est pas aussi rapide qu'un vol Bagdad-Paris.
On a hérité de l'agriculture du Proche-Orient. Mais pourquoi on n'a pas la même culture gastronomique pourtant ?
Bah, Thomas, c'est quoi le cliché du français pour les étrangers ?
Je sais pas, une marinière, un béret, une baguette de pain et un verre de vin en main, non ?
Oui, c'est ça. Et en fait, il est là ton lien. Le blé et la vigne qui servent à faire du pain et du vin sont des plantes qui sont domestiquées au Proche-Orient. Donc on en a simplement hérité.
Mais on en a hérité parce qu'on pouvait les cultiver sur le territoire français, parce qu'on a le bon terroir.
Exactement. Et d'ailleurs, on parlera du terroir dans le prochain épisode, de son lien avec notre gastronomie, notre identité et notre agriculture.
Finalement, si je comprends bien, sans révolution néolithique, pas de vin rouge, pas de baguette, mais aussi pas de temps libre et une organisation sociale très différente.
C'est ça. Sans agriculture, notre société serait très différente. On ne serait peut-être pas là à faire de la radio, mais plutôt en forêt, à cueillir des champignons ou à chasser le sanglier.
Pas mal non plus. On est ravis d'avoir pu vous accompagner dans ce voyage temporel sur le développement de l'agriculture.
Retrouvez cette chronique sur le site de Radio B. Et si jamais vous voulez aller plus loin, vous retrouvez sur le site des ressources pour creuser le sujet. Si jamais vous souhaitez vous passionner de révolution néolithique.
En tout cas, on se retrouve le mois prochain pour parler de terroir.
C'était Rémi Pascal.
Et Thomas Grostet.
À bientôt.
J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.
Il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu d'argent mangent des cochonneries.
Est-ce possible de concilier cette sécurité alimentaire avec la biodiversité ? La réponse, elle est catégoriquement oui.
Les sols qui se dégradent au sens de perdre sa matière organique et de perdre sa vie biologique, il y en a de plus en plus.
Plat de résilience, présenté par Thomas Grostet et Rémi Pascal sur Radio B.